voilà l'histoire des féministes réalisée par Jacqueline Engrave. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la première partie, les proto-féministes. Cependant, auparavant, comme je l'ai fait à la dernière émission, je voudrais rappeler le plan général en cinq parties. La première partie, donc les proto-féministes, les pionnières individuelles. La deuxième partie parlera des féministes de la première vague de 1900, dans la lutte pour les droits civiques. La troisième partie, les féministes de la deuxième vague au XXe siècle, la lutte pour la contraception et l'IVG. La quatrième partie, la troisième vague, fin XXe siècle, la lutte pour les minorités de genre. Et la cinquième partie, les féministes d'aujourd'hui, la quatrième vague en cours, la dénonciation des violences masculines envers les femmes. Alors, après avoir consacré deux émissions à l'introduction, nous abordons cette première partie, les proto-féministes, les pionnières oubliées, les meilleures représentantes d'une conception de vie pro-féministe. Un prototype, c'est un modèle original exemplaire. Elles ont existé avant notre ère, puis au Moyen-Âge, puis au siècle suivant, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, avant l'action féministe collective qui commence au 19e siècle. Comme nous l'avons déjà souligné dans l'introduction, avant d'être une pratique collective, le féminisme fut une attitude individuelle de femmes dont on trouve des traces anciennes dans nos sociétés occidentales, mais on trouve aussi des proto-féministes dans des temps très anciens avant notre ère, telles Hatshepsut, la femme pharaon, moins 1580 avant Jésus-Christ, ou au IVe siècle après Jésus-Christ, Hypatie d'Alexandrie, la mathématicienne philosophe. Leur vie nous paraissent des exemples, bien que nous n'ayons pas du tout envie de subir leur sort. Ces lointaines ancêtres nous ont transmis en héritage leur pugnacité, leur rébellion, leur force morale, sans avoir jamais atteint l'égalité avec les hommes. Car même aujourd'hui, quel libre arbitre avons-nous quand les forces sociales sont contre nous ? Commençons par découvrir ou redécouvrir ces deux exemples, Hatshepsut et Hypatie, la vie de ces deux femmes de caractère qui se sont imposées dans un monde masculin, chose que les hommes leur ont fait payer cher. Puisque, en dépit des soutiens réels qu'elles ont d'abord reçus de certains d'entre eux, elles ont été finalement humiliées, diffamées au-delà de la tombe pour l'une, Hatshepsut, assassinées sauvagement pour l'autre, Hypatie d'Alexandrie. Pour cela, nous rappelons et nous reprenons ici des éléments que nous avons développés dans les portraits faits précédemment sur cette antenne. Donc, premier exemple, Hatshepsut. Hatshepsut, de moins 1580 à moins 1458 avant notre ère, Hatshepsut, reine pharaon de l'ancienne Égypte, est dans l'histoire de l'humanité la première femme dont on est sûr qu'elle exerça un vrai pouvoir politique, la fonction royale, la première à avoir laissé de nombreux témoignages de son règne et qui, pour sa crédibilité, a jugé nécessaire de prendre les attributs masculins qui avaient cours à cette époque en Égypte, à savoir les coiffes et couronnes pharaoniques et la barbe postiche, symbole fort des pharaons. Parce qu'elle a régné en tant que régente pendant la minorité du futur roi Thoutmôsis III, elle est considérée par les historiens hommes comme une usurpatrice. Voici d'ailleurs comment la présente le dictionnaire Larousse, édition 2023. Je cite « Hatshepsut, reine d'Égypte, de la 18e dynastie, épouse de Thoutmôsis II, elle usurpa le pouvoir durant la minorité de son beau-fils Thoutmôsis III, temple funéraire à Der el-Bahari ». C'est tout ce que dit le dictionnaire sur elle. Rien sur sa politique pacifique qui, tout en veillant à la sécurité de son pays, a préféré développer le commerce plutôt que les conquêtes militaires et permis ainsi à la prospérité de s'installer. Elle a mené une politique architecturale très importante. Le temple funéraire de Der el-Bahari, cité par le Larousse, est la plus magnifique des réalisations d'Hatshepsut. Les Égyptiens anciens l'appelaient le sublime des sublimes ou la merveille des merveilles. Mais les hommes ne l'entendent pas ainsi. Après sa mort, à l'âge de 50 ans, elle a été littéralement rayée et avec rage de l'histoire par ses successeurs hommes et par nos historiens hommes. On a détruit systématiquement ses effigies, ses statues, ses noms et des textes relatant les événements officiels concernant sa personne royale et son règne. On a attaqué violemment son temple funéraire en faisant marteler le nom et l'image d'Hatshepsut. Son beau-fils Thoutmôsis III n'aurait pas accepté que la succession des rois mâles ait été interrompue par une femme. Il fallait effacer les témoignages de cette intrusion insupportable. Son règne disparaît alors des chroniques officielles pendant environ 3300 ans. Hatshepsut n'existe plus aux yeux du monde, jusqu'à ce que Champollion, notre grand égyptologue français, la redécouvre. Mais même maintenant, lorsque l'on s'intéresse un tant soit peu à la civilisation de l'Égypte ancienne, on ne connaît pas Hatshepsut. Selon la grande égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt, je la cite, « de nouveaux documents exhumés permettent aujourd'hui de ne plus accabler la grande Hatshepsut de toutes les forfaitures ». Certains archéologues déclarent toujours cependant que, je souligne, « sans un homme à ses côtés, une femme seule n'aurait pas été capable de mener à bien le règne brillant qu'il leur paraît pourtant aujourd'hui difficile de contester ». Des analyses plus objectives, sous-entendues que celles des historiens misogynes, permettent de considérer l'action d'Hatshepsut comme parfaitement digne et positive. Il fallait demeurer aveugle pour nier l'évidence, conclut Christiane Desroches-Noblecourt, qui l'a ressuscitée et réhabilitée dans son livre « La reine mystérieuse Hatshepsut, édition Pygmalion ». Ensuite, un deuxième exemple de proto-féministe, comme je l'ai annoncé, Hypatie d'Alexandrie. Un peu moins loin de nous, car née aux environs de 360 après Jésus-Christ, sous notre ère donc, Hypatie d'Alexandrie est la première femme mathématicienne et philosophe célèbre de son vivant. Savante et enseignante, elle régnait en vénérée sur le milieu intellectuel d'Alexandrie. Alexandrie, grande ville, siège principal des sciences au IVe siècle, où s'interpénètrent toutes les cultures grecques, romaines, égyptiennes et juives. Selon Socrate, je le cite, « elle avait atteint de tels sommets dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps. » Non chrétienne, mais tolérante à l'égard des premiers chrétiens, elle était considérée comme une guide initiée aux difficultés de la philosophie et elle avait une influence majeure, notamment auprès du préfet de Rome, Oreste, chrétien modéré, mais en conflit avec l'évêque Cyrille. Cyrille est un ambitieux qui ne supporte pas la grande popularité d'Hypatie et tente de la discréditer. Elle est accusée d'avoir entravé l'influence de l'Église, d'avoir des dons sataniques. La cohabitation harmonieuse entre païens et chrétiens est devenue insupportable à certains chrétiens. D'ailleurs, la doctrine chrétienne va peu à peu triompher, refoulant la sagesse, la réflexion, la raison et le culte païen. En 380, le christianisme est la seule religion autorisée dans l'Empire romain. En 415, Hypatie d'Alexandrie est attaquée violemment par un groupe de moines chrétiens fanatisés. Ils la saisissent, déchirent ses vêtements, la tuent à coups de tessons de poterie, découpent son corps en morceaux qu'ils traînent dans les rues et les brûlent sur un bûcher. Ce destin tragique d'Hypatie n'est pas sans rappeler celui encore plus proche de nous, de celle que les hommes qualifiaient de sorcière au XVIe et XVIIe siècle notamment, et nous le verrons plus tard. Pour l'instant, nous faisons une petite pause musicale avant de continuer dans 2 minutes.
Et on écoute donc Concerto de Vivaldi en Do majeur pour mandoline par Avi Avital. Thank you.
Maintenant, nous sautons quelques siècles, nous passons au XIIe siècle. Autre femme pionnière des féministes, donc celle du XIIe siècle. Georges Duby en a présenté six dans son ouvrage intitulé « Dames du XIIe siècle, Héloïse, Aliénor, Iseux, Juette et quelques autres », édition Gallimard, 1995. Alors parlons d'abord de la reine Aliénor d'Aquitaine, femme rebelle, l'indomptable à la destinée exceptionnelle. Nous avons fait son portrait, le septième de la deuxième série, sur notre antenne. En 1137, à l'âge de 13 ans, elle fut livrée à son premier mari, un garçon de 16 ans, le roi Louis VII de France. Georges Duby nous apprend que les femmes de haute lignée étaient mariées, remariées sans relâche, aussi longtemps qu'elles étaient capables d'enfanter, sauf, entre guillemets, accident, à savoir le divorce et la rébellion. Aliénor usa des deux, non sans avoir mis au monde pas moins de 10 enfants en 20 ans. 2 filles avec Louis VII et fécondée tous les ans, 8 enfants avec son deuxième mari, Henri II de Plantagenet, roi d'Angleterre. Mais elle avait eu le courage de se séparer de Louis VII, puis d'épouser Henri II en 1152, 8 semaines seulement après la dissolution de son mariage par le pape. On ne parlait pas de divorce à l'époque, mais de dissolution du mariage, et c'était fait par l'Église. Elle a participé à la deuxième croisade avec Louis VII, traversant à cheval l'Europe et l'Anatolie. Elle a exercé le pouvoir de 1167 à 1173, prenant des décisions importantes. Emprisonnée par Henri II pendant presque 15 ans parce qu'elle avait comploté contre lui, c'était un mari volage, puis libérée par son fils Richard Cœur de Lion, elle a gouverné l'Angleterre. Femme politique d'une grande finesse, férue de littérature, elle ne fut donc pas une épouse soumise. Au contraire, douée d'une volonté de fer, et tout en assumant la naissance de 10 enfants, elle travailla sans relâche aux affaires de l'État jusqu'à la fin de sa vie, en 1204, à Poitiers, à l'âge de 80 ans. Voici maintenant une autre proto-féministe du XIIe siècle, citée par Georges Duby. Elle s'appelle Juette, J-U-E-T-E, c'est le surnom d'Yvette, née en 1159. En 1172, Juette vivait à Huy, H-U-Y, dans l'actuelle Belgique. Elle avait 13 ans, à l'âge où l'on mariait les filles en Europe, comme nous l'avons vu pour les reines, à cette époque et les siècles suivants. C'est toujours le cas dans certaines contrées du monde aujourd'hui. Juette n'a pas compté dans l'histoire, mais un religieux écrivit le récit de sa vie vers 1230, et c'est pourquoi nous la connaissons, nous dit Georges Duby. Enfant docile, je cite, « elle s'était laissée prendre aux brutalités de l'accouplement et ne s'en était jamais remise. Après 5 années de vie de dégoût avec ce mari dont elle eut 3 garçons, à 18 ans, elle se crut délivrée quand il mourut enfin. Elle résista alors héroïquement à la volonté de son père qui voulait la remarier au plus offrant. Il la fit comparaître pour cela devant l'évêque et une assemblée d'hommes, de clercs, de chevaliers. Dans le monde d'alors, empreint de sacralité, toute la vie dépend de l'autorité religieuse. Mais elle trouva l'argument qui la libéra. Elle s'était donné un meilleur époux, le Christ, dit-elle. Et l'évêque la bénit. Mais à 18 ans, elle restait une proie fraîche pour les hommes. Elle s'en méfiait, elle vivait même dans la peur. Elle échappa de peu à un viol collectif, mais comment faire pour échapper enfin, définitivement, à tous les hommes qui la convoitaient, à son père, à ses fils, aux parents regrettant de n'avoir pu la remarier, aux chanoines libidineux, à tous ces mâles qui tournaient autour d'elle. Après 5 années de veuvage, elle décida de se retirer du monde. Je cite toujours Georges Duby. Elle s'installa dans une léproserie implantée dans la banlieue de Huy et là trouva la paix en soignant les malades. Elle mena cette vie active pendant 10 ans, puis elle choisit la vie contemplative et se transféra dans l'ordre des recluses. Elle vécut 37 ans recluse dans une petite maison attenante à la chapelle de la léproserie. Ce qu'elle voulait, c'était la solitude salvatrice. Ce n'est pas le genre de projet de vie qui fait rêver de nos jours pour se protéger de la violence et de la domination masculine, nous dit Titiou Lecoq dans son livre de 2021 « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Bien que l'on puisse comprendre l'aspiration actuelle de certaines d'entre nous à vivre seule pour sa liberté d'action et sa tranquillité d'esprit. Alors, qu'est-ce que cet état de recluse, me direz-vous ? Le but, c'est pour les femmes seules, se mettre à l'abri des hommes par un moyen vraiment radical, se faire emmurer vivante au sein d'une ville, dans un espace de 9 mètres carrés, et ce, jusqu'à sa mort. Les recluses étaient volontaires. Paradoxalement, une recluse au sein de la ville joue pourtant un certain rôle social. Il y avait une fente sous la porte pour évacuer les excréments et une petite fenêtre à barreaux donnant sur la rue par laquelle les passantes et les passants lui donnaient à manger. Mais pourquoi le faisaient-ils ? Eh bien parce qu'elles priaient pour eux. Les recluses étaient mortes au monde et en même temps, elles faisaient des prédictions, donnaient des conseils, étaient au courant des dernières nouvelles malgré leur enfermement, parce que situées dans un point stratégique de la ville. Ainsi, des femmes qui avaient vécu des moments douloureux, comme Juette, pouvaient trouver un refuge matériel et un réconfort psychologique et spirituel en remplissant cette fonction sociale valorisée. Je cite là Titiou Lecoq, page 111 de son livre précité. C'est comme cela que Juette vécut pendant 37 ans, refusant toute emprise masculine. On la savait visionnaire. Elle voyait ce que le commun des mortels ne voit pas, ce dont lui conférait une renommée, une certaine puissance aux yeux de ses concitoyens et concitoyennes. Dans tout le pays de Liège, on la tenait pour un médium. Elle lisait dans les cœurs et ceci la rendait redoutable. Elle connaissait aussi l'éblouissement des extases. Mais Juette n'était pas vraiment seule. Elle avait fait emmurer avec elle une servante qui lui transmettait les messages des demandeurs et des demandeuses qu'elle accueillait au rez-de-chaussée devant une petite fenêtre. Juette était à l'étage où elle trônait, inaccessible. Elle avait même rassemblé sous sa coupe toute une compagnie de jeunes filles qu'elle s'appliquait à détourner du mariage, protégeant ses agnelles contre les loups qui les guettaient. C'était une recluse qui n'avait pas renoncé au confort. Ce qu'elle voulait et ce qu'elle a obtenu par ce moyen, c'était, répétons-le, la tranquillité, la paix, loin des hommes. Au XIIe et XIIIe siècle, un autre mode de vie fut adopté par des femmes, toujours pour la même raison, se préserver de la tutelle et de la brutalité des hommes. C'est le béguinage, B-E, accent aigu, G-U-I-N-A-G-E. Un mode de vie qui se répand dans le nord de l'Europe, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de la France. Qu'est-ce que c'est que le béguinage ? Il s'agit des communautés de femmes qui vivaient et travaillaient ensemble, protégées, créées par des religieuses. Ces communautés sont laïques, parce que situées en dehors des murs, des monastères ou des couvents. C'était une excellente solution de vie pour les femmes seules, veuves ou célibataires. Elles suivent certaines règles religieuses monastiques, mais ne forment pas de vœux perpétuels. Les béguines du XIIe siècle sont des femmes dévotes et indépendantes qui ne veulent pas choisir entre le mariage et la vie religieuse. Ni épouses, ni nonnes, elles partagent leur temps entre la prière et les œuvres de charité. En cela, elles démontrent pour la première fois que des femmes peuvent socialement exister sans être ni épouse ni nonne, je souligne, un statut libre, parce que libéré de la tutelle masculine. Financièrement indépendantes par leur travail, la couture, la production de textiles ou l'enseignement, elles résident en général dans des maisons individuelles regroupées, un peu en marge des villes, un lieu assurant une certaine sécurité et une relative solitude recherchée dans un espace souvent clôturée sur un vaste terrain garantissant la tranquillité à ces femmes pieuses, sans pour autant les couper du monde, comme cela peut être le cas dans un couvent. Bref, un habitat construit à la mesure et selon les besoins des femmes libres, ce que nous recherchons encore aujourd'hui. Elles sont influencées, ceci est valable notamment pour les béguines du Brabant, une région belge. Elles sont influencées par l'œuvre de Hildegarde de Bingen, B-I-N-G-E-N, une sainte qui a commencé en 1141 à transcrire ses visions surnaturelles dans trois principaux ouvrages et à composer aussi des hymnes et symphonies. Une œuvre étrange, à la fois scientifique et mystique, poétique, descriptive et apocalyptique. Elle puisait dans sa confiance en Dieu une solide confiance en elle-même, cette Hildegarde de Bingen, dit Simone de Beauvoir. Les béguinages sont régis par des principes d'autogestion, principes fondamentaux d'autogestion, de solidarité et d'entraide. C'est une sorte de démocratie avant l'heure, dit Sylvana Panciera, P-A-N-C-I-E-R-A, sociologue, dans son livre « Les béguines » sorti en 2009, édition Fidélité. Il n'y a pas de mère supérieure, comme dans les couvents, juste une « grande dame », entre guillemets, élue pour quelques années sur un socle de valeurs communes. De même, chaque béguinage édicte ses propres règles, toujours modifiables. Cette indépendance des béguines qui s'affranchissent de la domination masculine est vue d'un mauvais œil par les autorités ecclésiastiques. Les béguines sont condamnées et poursuivies pour fausse piété et hérésie par le Concile de Vienne de 1311. Au temps de l'Inquisition religieuse, certaines finiront sur le bûcher, telle la parisienne Marguerite Porrette. Les béguines sont même parfois traitées de sorcières. Nous verrons plus tard le sort réservé aux femmes nommées ainsi. Ce que l'Église ne peut tolérer, c'est l'émergence de femmes laïques et indépendantes dans la vie spirituelle, une voie alternative par rapport à la religion, donc des femmes qui échappaient à l'emprise religieuse, une ligne de rupture entre l'Église et les femmes. Le mouvement disparaît, sauf en Flandre où il reste admis. La dernière béguine est morte récemment, le 14 avril 2013, à Courtrai, en Belgique. D'après ma source, qui est la philosophie, magazine Philosophie, hors série, numéro 43, titré « La puissance des femmes, une autre histoire de la pensée ». Anne-Marie Helvétius, professeure d'histoire belge, a réhabilité ce mouvement parce qu'il a été déconsidéré par les historiens hommes, bien sûr. Alors, on ne peut manquer de faire le rapprochement avec des pratiques actuelles féministes que l'on pourrait qualifier de néo-béguinage. Apolline Vranken, V-R-A-N-K-E-N, architecte belge, autrice d'un essai d'analyse du rôle du logement, tant au niveau matériel qu'économique ou symbolique, émet l'hypothèse que les convictions spirituelles des anciennes béguines sont aujourd'hui remplacées par un partage de convictions politiques, de valeurs communes de vie autour du principe essentiel de solidarité et qui revalorise notamment les tâches du soin aux autres, au sens large, tâches, on le sait, très majoritairement effectuées par les femmes, tâches rémunérées mal ou pas rémunérées du tout et qui redeviennent alors une responsabilité collective. Nous avons en France un exemple fameux de ce néo-béguinage, la maison des Baba Yaga. Je vous dirai plus tard ce que c'est que les Baba Yaga. C'est une résidence originale qui a vu le jour à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en 2013, à l'initiative d'une féministe militante charismatique, Thérèse Clerc, C-L-E-R-C, qui est décédée en 2016. C'est une forme de logement adapté aux femmes libres, des logements autogérés pour femmes aux ressources modestes et autonomes de plus de 60 ans. Chacune habite chez soi. Il y a une vingtaine d'appartements indépendants d'environ 35 mètres carrés à faible loyer, moins de 400 euros par mois, et des lieux de vie collective. Les six valeurs communes des Baba Yaga sont en gros les mêmes que celles des anciennes béguines. L'autogestion, la citoyenneté, la solidarité, la laïcité, à laquelle elles ont ajouté l'écologie et, bien sûr, le féminisme. Ce n'est pas une maison de retraite. L'idée, c'est de retarder, voire d'éviter l'entrée en institution médicalisée et de se débrouiller seule, par l'entraide, les unes des autres, indépendantes, mais soudées, en un vivre ensemble joyeux et ouverte vers l'extérieur. Le nom Baba Yaga, B-A-B-A-Y-A-G-A, vient d'un personnage des légendes russes, une vieille grand-mère qui habite une maison au mur en pain d'épices, mi-sorcière, mi-ogresse, parce qu'elle mange les petits-enfants qui viennent manger ces murs en pain d'épices. L'épidémie de Covid et le confinement ont porté un coup dur à la maison des Baba Yaga, comme à d'autres structures ou institutions. Elle cherche un nouveau souffle, mais elle reste un projet unique, réplicable et plein d'avenir, lançant le défi de changer le regard de la société sur le vieillissement et l'émancipation des femmes. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Le mois prochain, nous poursuivrons cette première partie en évoquant la vie des sorcières, de celles qu'on a appelées les sorcières, au 15e, 16e et 17e siècle. Ce sera le 5 décembre.
Mardi 5 décembre à 9h, toujours sur 99.3. Les actions de Femmes Solidaires pour terminer, donc en novembre, puisque novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre de chaque année. Donc, il y aura une exposition, Les violences, elles disent non, au lycée agricole de Carmejane, salle du CDI, en partenariat avec la mairie du Chaffaut, les 13, 14, 15 et 16 novembre. Le 15 novembre à 17h30 au Chaffaut, inauguration du banc rouge, place du Cabaret, à l'entrée du village, suivi de l'inauguration de l'exposition et soirée débat au lycée de Carmejane. Toujours l'exposition.
Violence, elles disent non.
Alors, qu'est-ce que c'est le banc rouge ?
Le premier banc rouge est apparu en Corse le 25 novembre 2017 à l'initiative de Femmes Solidaires en partenariat avec la municipalité de Bastia. Sur l'inscription, on peut lire « À la mémoire de toutes les femmes victimes de violences ». Donc c'est forcément un partenariat avec les municipalités qui acceptent de peindre un banc en rouge.
Et enfin, les 18 et 19 novembre, exposition « Violences, elles disent non » à Puymoisson, salle à côté de la mairie, exposition commentée par Femmes Solidaires. Merci Jacqueline pour toutes ces informations.
Merci à vous.
Et bonne journée et au mois prochain.
Au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.